Bonne matinée, les 9h.
Un appartement à Paris, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso.
Madeleine et Gaspard ont loué sans le savoir le même appartement. Une méprise qui les entraîne dans une enquête terrifiante et les changera à jamais.
Un appartement à Paris, de Guillaume Musso. Un thriller envoûtant, un livre XO.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Médecin, diplomate, académicien, essayiste, romancier, alpiniste, homme d'action, autant comme de réflexion. Vous êtes, pour nous journalistes, et j'en suis sûr pour beaucoup de vos lecteurs, une personnalité tout à fait singulière. Quel est le ressort finalement profond de toutes ces vies plurielles, Jean-Christophe Ruffin?
Le ressort, c'est juste l'envie de connaître le monde et puis après de le partager. Donc quand j'ai voulu écrire, et je crois que c'était très tôt, je me suis dit qu'avant d'écrire une ligne, il fallait d'abord avoir vécu. Et pour ça, j'ai commencé par la médecine et puis j'ai fait tout ce que vous avez dit. Mais enfin, fondamentalement, je n'en ai fait que deux métiers dans ma vie. Je suis médecin et j'écris des livres.
Alors ce matin, c'est donc l'écrivain que nous accueillons. Je veux bien une petite consultation aussi.
Jean-Christophe Ruffin, allongez-vous.
Voilà. Vous publierez donc jeudi chez Gallimard Le Tour du Monde du Roi Zibeline. Nous en reparlerons en détail dans un instant avec Bernard Lehu. En studio également, Isabelle Morini-Bosque pour notre soirée télévisée. Bernard, dans son nouveau livre, Jean-Christophe Ruffin renoue avec le genre qui a fait en fait ses plus grands succès, le roman historique.
Ah ben oui, dans la lignée de L'Abyssin, de Rouge Brésil, votre prix Goncourt en 2001, ou du Grand Cœur, vous signez en effet, alors non seulement un roman historique en cinémascope, mais aussi un époustouflant récit de voyage, une palpitante histoire d'amour et un édifiant conte philosophique. Tout cela en sortant de l'oubli l'un des plus grands aventuriers du XVIIIe siècle, Auguste. Alors comment on prononce Benjovski?
Benjovski, on dit Benjovski. Benjovski, oui.
Très bien. Ouais. Autrement dit, le roi Zibeline. Pourquoi lui, Jean-Christophe Ruffin?
Ça c'est difficile à savoir, mais c'est un personnage que j'ai rencontré, si je puis dire, bien que je sois un petit peu plus jeune que lui, mais enfin je l'ai rencontré par hasard en Pologne, parce qu'il était en partie polonais par sa mère, et c'est au fond un levé hasard, parce que c'est Vera Michelski, qui est un éditeur, et son mari, qui avait publié ses mémoires, des mémoires en français d'ailleurs, qui avaient été écrites en français. Et j'ai lu ses mémoires, j'étais à Cracovie quand on a parlé de ça, et depuis 20 ans, ce personnage m'habite un peu, et puis j'avais envie de le mettre à ma sauce, si je puis dire.
Je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur, je me permets de le confesser, parce que
vous n'êtes pas le seul.
Quitte à être ridicule,
je le suis aussi, je confirme.
Non, mais il a été totalement oublié, pour une raison d'ailleurs simple, c'est que les Français qui l'ont assassiné, finalement, ont voulu aussi assassiner sa mémoire, c'est-à-dire que avant la conquête de Madagascar, si vous voulez, c'est un personnage qui proposait au fond une autre façon d'avoir des relations avec cette île, avec ses peuples. Et quand la France a décidé d'intervenir militairement avec Gallieni à Madagascar, à la fin du 19e siècle, les historiens coloniaux ont systématiquement fait de ce personnage un escroc, un mythomane, et donc on l'a oublié totalement. Ce qui n'est pas le cas en Pologne d'ailleurs, et dans les pays de l'Est où on se souvient de lui.
Parce que donc, il va devenir roi de Madagascar, le roi Zibeline, on va y revenir, mais on commence peut-être par les origines. Quel est son pédigré? D'où sort ce personnage?
C'est un petit noble qui est né dans une frontière d'ailleurs qui a beaucoup bougé au cours de l'histoire, entre la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne par sa mère. Il a été élevé par un précepteur français, d'où la maîtrise qu'il a de cette langue, très influencé par l'esprit des Lumières. Ce précepteur était un philosophe, une sorte d'abbé défroqué, comme il y en avait pas mal à Paris, puis qui a été cherché ensuite du travail dans les pays de l'Est. C'était le cas de bien d'autres philosophes. Il s'est engagé dans l'armée très jeune, à 14 ans. Il s'est battu contre les Russes, en particulier.
Et donc là, la déportation en Sibérie.
Il a été déporté en Sibérie. Alors, je passe les détails, parce qu'évidemment, enfin, ceux qui s'intéressent pourront lire le livre, si je puis dire.
Je crois qu'il y en aura un certain nombre.
Les éditions Gallimard vous remercient.
Non, mais enfin, c'est une vie absolument rocambolesque. Mais l'essentiel, c'est qu'en effet, il a été déporté en Sibérie. Et là, pas n'importe où en Sibérie, à l'extrême bout de la Sibérie, dans ce qu'on appelle le Kamtchatka, qui est une péninsule à la frontière de la Chine.
Il fait pas chaud chaud.
Où il fait pas très chaud. Il a mis d'ailleurs plus d'un an à y aller à pied, parce que c'est comme ça qu'on allait à l'époque là-bas. Et puis, il s'est évadé. Il s'est évadé, et il s'est évadé comme il faisait pas les choses en petit. Il s'est évadé avec 80 personnes en volant un bateau, un trois-mâts, tout simplement, et en partant dans les mers froides d'abord, puis ensuite vers la Chine, avec ses 80 copains et la fille du gouverneur, bien sûr, qui est devenue le personnage principal de ce livre, parce qu'au fond, je voulais pas que ce soit un livre d'hommes, je voulais qu'il y ait ces deux voix. Et il y a la voix de Benioffsky, qui, effectivement, qui parle de lui, Auguste, et puis sa femme qui va l'accompagner dans toutes ses aventures.
Mais alors, comment il déboule chez nous? Comment arrive la France en dehors de son précepteur dans tout ça?
Ben parce qu'ils font le tour. Ils font le tour par le Japon, la Chine, Madagascar, et ils arrivent en France. Ils
tout
arrivent
ça avec le bateau volé.
Tout ça, alors jusqu'à Macao, puis à Macao, ils changent de bateau. Ils viennent sur un bateau de la Compagnie des Indes. Ils arrivent en France.
Excusez-moi, faut de l'argent, faut se nourrir, faut avoir.
Ah ben de l'argent, ils avaient.
Tout est incroyable.
Ils avaient piqué des fourrures parce que le Kamchatka et toutes les îles aléoutiennes, c'était ce qu'on appelait les îles à fourrures. Donc il y avait des zibelines en particulier.
Et là, on dirait un film avec Belmondo, vous voyez.
Écoutez, avis aux amateurs. Mais en tout cas, ils payaient chaque fois qu'il arrivait quelque part, il échangeait évidemment de la nourriture, etc., contre des fourrures, ces peaux qu'il avait emmagasinées dans son bateau, puisqu'il est parti en piquant des autres choses. Et arrivé en France, il a vendu à la France et au roi de France les secrets militaires qu'il avait rapportés de cette région du monde, qui était une région très convoitée, cette espèce de, vous savez, le détroit de Bering entre l'Amérique et la Russie. Les Anglais s'y intéressaient, surtout depuis qu'ils avaient été fichés à la porte des États-Unis, puisque c'est l'indépendance américaine, et les Anglais veulent revenir par l'autre côté, si je puis dire. Donc Cook va pas tarder à aller par là. Ça intéresse les Français. Il vend ses secrets militaires, et là, on lui confie une mission, le roi de France. Je lui ai dit, écoutez, monsieur.
C'est Louis XV. Hein,
alors, au début, Louis XV, oui. Puis ensuite, il a été à la charnière des deux rois.
Deux.
Et on lui dit, vous allez conquérir Madagascar. Voilà. Un petit peu pour se débarrasser de lui, parce que franchement, ce n'était pas un cadeau, compte tenu de la situation de géopolitique de l'époque. Et il y va. Et il est fou de bonheur, et sa femme aussi, d'être comme ça, chargé d'une mission par ce pays qu'il admire et dont il connaît la culture et dont il porte les valeurs. En tout cas, c'est ce qu'il croit.
Et alors justement, on n'en est pas encore au stade de la colonisation, c'est ce que vous montrez. Il a une approche très humaniste de ses voyages et de ce contact avec les peuples.
Ben, le XVIIIe siècle, en réalité, est un siècle très paradoxal, parce que c'est à la fois le siècle du commerce triangulaire, de l'esclavage, etc. Et en même temps, certains personnages, surtout tous ceux qui sont influencés par cette philosophie des Lumières, sont beaucoup plus fraternels dans leur relation avec les pays qu'ils vont rencontrer, avec ces peuples africains en particulier, que ne le sera le 19e siècle. Le 19e siècle va refermer tout ça avec la hiérarchie des races, la hiérarchie des civilisations, la colonisation dure. Mais là, on n'en est pas encore là. On est plutôt dans l'émerveillement de la rencontre, de l'exploration. Et ce personnage, c'est ça que je trouve extraordinaire, à la fois est devenu roi de Madagascar, en tout cas, c'est ce qu'il a prétendu. Il était roi, sans doute, d'une partie de l'île. Et il a surtout pris fait et cause pour ce pays contre les Français, en disant aux Français, ne pratiquez pas l'esclavage, laissez ces gens tranquilles. Et il est allé jusqu'aux États-Unis pour demander l'aide des Américains pour faire de Madagascar une sorte de 51e État américain avant la lettre, si je puis dire, et donner à ce pays une constitution sur le modèle de la constitution américaine. Tout ça au milieu du 18e siècle.
Vous avez compris que c'est une histoire extraordinaire que nous conte Jean-Christophe Ruffin. Alors, on vous fait gagner le tour du monde du roi Zibeline, publié chez Gallimard, qui sera dédicacé, bien entendu, par son auteur, si vous répondez à la question de Bernard Lehu.
Alors, où a été déporté ce roi Zibeline, autrement dit Auguste Benioffsky ou Benjovski, oui. Où a-t-il été déporté?
Bon, il fait pas chaud, hein, on vous l'a déjà dit. Réponse au 32-10. On poursuit notre conversation, notre rencontre dans un instant avec Jean-Christophe Ruffin, et nous découvrirons notamment que le roi Zibeline avait une femme. Et nous sommes toujours en votre compagnie, Jean-Christophe Ruffin, à l'occasion de la publication jeudi de votre tout nouveau roman, Le Tour du Monde du roi Zibeline, qui vous a transmis votre passion pour l'histoire, et là j'ai envie d'ajouter la géographie aussi, et ces acteurs souvent les plus inattendus.
En réalité, j'ai pas l'impression d'écrire des romans historiques. Moi, j'ai écrit des romans d'abord. Alors, le temps du récit, c'est le passé. Je sais pas très bien quand ça commence, un roman historique. Au fond, quelque chose qui se passe il y a 20 ans, pour moi, c'est pas encore vraiment. Donc, je crois qu'en fait, ce qui fait le succès de mes livres, je pense, c'est le fait que justement, on oublie qu'il s'agit de personnages lointains dans l'histoire. Et j'essaie, je m'efforce de les rendre présents. Je vis avec eux, si vous voulez. Alors, c'est facilité par le fait que ça se passe souvent sous les tropiques, donc ils ne sont pas très habillés, donc on n'est pas encombré par des chapeaux à plumes et autres accessoires. Ils sont comme nous, ils ont faim, ils ont soif, ils sont... Voilà, et c'est ça qui me plaît. Maintenant, pourquoi l'histoire, pourquoi ce décalage? Je pense que, étant médecin et ayant prêté le serment d'Hippocrate, je n'ai pas le droit de révéler directement ce que j'ai vu. Vous savez, on vous fait jurer ça quand vous avez fini vos études de médecine. Donc, je ne peux pas raconter quelque chose qui m'est arrivé hier ou avec des proches, si vous voulez. J'ai besoin de décaler, de brouiller les pistes. Et donc, je peux parler de ce que je connais en le situant dans l'histoire. Parce que quand je parle du XVIIIe siècle, ben, je peux mettre le portrait de mon voisin, il ne se reconnaîtra pas, ou en tout cas, il ne m'en voudra pas.
Vous le faites ?
Ben, je ne m'en prive pas du tout. Non, non, bien sûr.
En même temps, vous avez abordé le monde contemporain avec des romans comme Katiba sur le djihad ou aussi Checkpoint sur les humanitaires.
Oui, ben, Checkpoint, c'était avec un décalage quand même de 20 ans. Et Katiba, bien sûr, mais ce n'était pas tout à fait dans le pays où j'étais en résidence. Enfin, il y a toujours quand même une distance.
Un décalage, oui. Alors, Jean-Christophe Ruffin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le roi Zibeline n'était pas seul dans son tour du monde et il a vécu une grande histoire d'amour. Il faut insister aussi là-dessus. Ce roman, votre roman, Le Tour du Monde du roi Zibeline, c'est une formidable histoire d'amour.
Ben, je voulais que ce soit un roman à deux voix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est fait sous la forme d'un récit ces deux personnages parlent, viennent en Amérique, ils voient Benjamin Franklin, ils lui parlent, ils lui racontent leur histoire. Et il y a deux voix.
Et
il y a deux
voix. Donc Auguste, alors, et Auguste son épouse, avec son prénom.
Aphanasie, c'est son prénom.
Oui, qui était donc la fille du gouverneur du Kamchatka,
qui est partie avec lui. Ces deux personnages sont à égalité, c'est-à-dire qu'ils racontent à peu près 50% de l'histoire chacun, et donc ils croisent leur regard, ils croisent leur regard sur l'histoire, et puis moi je trouve que ce personnage féminin est presque plus important, si vous voulez, lui il a un côté martial, d'ailleurs quand on lit ses mémoires, tu sais, il a toujours un peu raison, c'est un peu une grande gueule si vous voulez, et elle va... humaniser tout ça et transformer aussi le regard qu'il porte sur ses peuples. Parce que lui, il a tendance à arriver là, tout feu, tout flamme, combattre, etc. Et elle va apporter notre regard. Et ces deux personnages sont de même poids, si je puis dire, dans l'histoire. Et c'est effectivement l'histoire de leur amour qui les
conduit. C'est la réalité, partout. Ça n'est pas la part du romancier.
Non, c'est-à-dire que j'ai un peu bricolé l'histoire. Non, mais à peine. C'est-à-dire que Benioffsky a toujours été accompagné par une femme. Simplement, ce n'était pas la même. C'est-à-dire qu'il y a eu cette Aphanasie, en effet, avec laquelle il s'est évadé. Et puis, il y a eu son autre femme. Et moi, j'en ai fait qu'une avec les deux. C'était, j'allais dire, plus fort, parce qu'au fond, peu importe ce que l'histoire a été, je voulais qu'il y ait cette continuité dans ce regard et cette voix féminine qui l'accompagne pendant toute l'histoire. Et ça, c'est au fond la vérité.
Alors, Jean-Christophe Ruffin, après avoir connu tant de vies multiples, je me disais, est-ce que la politique pourrait un jour vous tenter ?
Écoutez, non, si j'avais dû commencer, j'aurais commencé avant. Elle me tente, j'allais dire, moins que jamais. parce que, voilà. Non, je pense que, si vous voulez...
Je suis sûr qu'elle vous a tenté.
Elle m'a tenté.
Vous êtes un homme d'action.
J'ai eu des propositions en ce sens à plusieurs reprises. Oui, oui. Mais je les ai toujours refusées. Pour une raison simple, c'est que chaque fois que je me suis approché, non pas de la politique au sens électoral, puisque je n'ai jamais été élu nulle part.
Mais du pouvoir.
Mais du pouvoir, en acceptant des fonctions comme celle d'ambassadeur, par exemple, je l'ai payé quand même assez cher. C'est-à-dire que je crois que la liberté du créateur, si vous voulez, s'accommode assez mal du contrôle de la parole qui est celle du politique. Et à un moment donné, il faut faire un choix. En même temps, on est très tenté, parce qu'évidemment, c'est tentant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est tentant de regarder le pouvoir. Et d'ailleurs, ça m'aide beaucoup pour décrire le pouvoir, c'est de l'avoir un petit peu approché, connu ses mécanismes. Mais je l'ai payé assez cher, voilà.
On revient à vos personnages. L'épouse d'Auguste, hein, le roi Zibeline, lui a survécu. Est-ce qu'on sait ce qu'elle est devenue ?
Oui. Alors, il y a des héritiers l'héritier de Benioffsky aux États-Unis. Benioffsky, Auguste, a des. Je suis allé récemment à Madagascar, d'ailleurs, voir l'endroit où il est mort. Et j'ai rencontré des Polonais qui s'intéressent beaucoup, qui font des recherches pour trouver sa dépouille, qu'on n'a pas encore trouvée.
Oui.
Il y a tous les ans une mission slovaque et les États-Unis. Il y a eu une grande exposition. Il y a quelques années, à Washington, sur Benioffsky, qui a rencontré George Washington, qui a eu une présence américaine importante, et qui a toujours des héritiers, enfin des héritiers lointains, des descendants qui portent son nom là-bas.
Le mystère Benioffsky n'est donc pas tout à fait levé, on est d'accord, il y a encore des tas de points à soulever.
Ben, quand je suis allé à Madagascar, à l'endroit où il est mort, la dernière scène du livre, si vous voulez, cette espèce de redoute où les Français l'ont encerclé et tué, avec ce panache extraordinaire de Benioffsky, eh bien, il y a un grand trou de près de 30 mètres de profondeur, parce que les Malgaches sont persuadés qu'il y a un trésor. Alors, ils n'ont jamais touché à cette colline, il y a toujours la forêt primaire, et ils creusent. Quand je suis allé là-bas, il y avait une soupe qui brûlait, qui cuisaient sur un petit feu, deux types qui devaient creuser, qui sont partis, qui ont détalé quand je suis arrivé, mais qui creusaient, parce qu'il y avait un trésor. Alors ce trésor, ils le cherchent, ben moi, j'ai eu l'impression de le trouver en écrivant ce livre.
Jean-Christophe Ruffin, vous restez avec nous dans un instant. On évoque notre soirée télévisée et nos audiences du week-end avec Isabelle Morin-Wilosque. Jean-Christophe Ruffin est avec nous aujourd'hui pour évoquer la sortie de son dernier livre, Le Tour du Monde du Roi Zibeline. Le roman paraît chez Gallimard très exactement jeudi. Ce jingle que venons d'entendre, Jean-Christophe Ruffin, annonce les audiences de notre week-end avec Médiamétrie.
Eh bien, les semaines se suivent et se ressemblent, même si c'est un week-end de départ en vacances pour certaines zones. Vendredi, Koh-Lanta et TF1 sont en tête avec quasiment 6 millions de téléspectateurs devant le polar de la 2K1, 3,4 millions. Et c'est le rasoir à deux lames samedi pour TF1 qui voit The Voice devancer nettement le match de foot de la 2, 6 millions 400 000 Fana contre 3 600 000 pour PSG AS Monaco. Et carton plein, puisque hier, le film de la Une, Les yeux jaunes des crocodiles, rassemble 5 millions de curieux. Devant qui? Devant l'inspecteur Barnaby. Un bon poulet. J'adore sa 19e saison.
Ben voilà. Alors, vous connaissez peut-être Mike Horn, Jean-Christophe Ruffin, enfin, vous voyez qui il est.
Bien sûr.
Depuis un an, il emmène des personnalités au bout du monde. Et Isabelle nous en dit un peu plus.
Oui, au bout du monde. Et d'elle-même, 5 jours pour faire 150 km en zone extrême, sans nourriture, sans confort, sans portable, sans assistant et si possible sans chichi. Il n'avait jamais amené de femme, c'est donc une première ce soir, puisque après Michael Youn en Namibie, Matt Pokora au Sri Lanka et avant Christophe de Chavannes, il amène Laure Manoudou en Afrique australe, dans la région du Zambèze, au milieu des hyènes, des éléphants, etc., etc. Et des hippopotames, animal fabuleux. Mais quand une dizaine d'entre eux s'approche de la pirogue qui prend l'eau, ça donne ça.
Il y a l'eau qui rentre, rame. Fort!
Allez! Alors, tous les trajets sont pré-effectués par Mike Horn et ses équipes. Il a en plus fait partie des forces spéciales sud-africaines en son temps. Il y a bien sûr des rangers pour assurer la sécurité de l'invité en cas extrême. L'équipe technique n'intervient jamais, aucun contact entre eux. Et Mike l'avoue, appelons-le Mike, hein, elle a été de loin la plus endurante, la moins capricieuse. Et est-ce qu'elle sait, Laure Manoudou, à quel point elle a impressionné notre extrémiste qui, justement, hésitait à amener des femmes avec lui à cause de l'hygiène, de tas de petites choses secondaires. Et puis d'abord, est-ce qu'elle a vu les autres reportages, Laure?
J'ai pas voulu les regarder avant de partir parce que je voulais vraiment profiter de ma rencontre avec Mike et de pas avoir d'a priori sur lui. Il y a eu un bon feeling dès le début. J'ai eu l'impression de le connaître depuis toujours, en fait. Un peu comme ma relation avec Philippe Lucas. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de complicité et je pense que c'était super important. Après, je pense qu'une femme peut être aussi forte qu'un homme, plus. Elle peut réaliser plus de choses et être plus forte psychologiquement puisqu'on sait très bien que les hommes ne pourraient pas assumer la difficulté d'accoucher. Mais en tout cas, non, de partir, oui, je me suis posé la question aussi au niveau de l'hygiène. Mais après, on n'y pense plus et on a envie de vivre à 100% et de vraiment profiter de tout ce qui se passe.
C'est vrai qu'une fois qu'on est sale, on est sale et puis voilà.
Oui, quand grosse bête, souci pour petits besoins, dans l'eau ou en zone sécurisée. Ah. La réaction de Laure.
Exactement, pour aller aux toilettes, c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais après on prend le risque aussi, hein. Donc on commence à apprendre, à savoir comment il faut faire dans la nature, et on regarde un petit peu autour, on fait attention, on regarde s'il n'y a pas des petites bêtes par terre, et voilà, on profite de tous les moments qu'on vit, parce que ça dure finalement pas longtemps.
Et avant de partir, elle s'était fait une promesse.
Je vais rentrer, je vais être svelte. On va faire du 5 kilos.
Perdre 5 kilos, oui, rien à déclarer là-dessus.
Alors, j'ai pas perdu de kilos, malheureusement, mais je me suis affinée, en fait. Je pense que c'est vraiment le muscle qui a pris le dessus. J'ai pas beaucoup de gras, mais c'est vrai que j'ai senti que je m'affinais pendant, pendant l'émission. C'est que 5 jours, mais quand, pendant 5 jours, on mange 3 fois, c'est vrai qu'on peut perdre vite. Après, j'ai quand même beaucoup de muscles, et c'est vrai que le muscle est plus lourd, donc je suis rentrée plus dessinée, on va dire. Les muscles plus sollicités, c'était les épaules. Moi, j'ai des grandes épaules avec la natation. Et... Mike était content, ouais. Marcher toute une après-midi, c'était beaucoup plus éprouvant pour moi, puisqu'il y avait la chaleur, il n'y avait pas l'eau dans la pirogue, j'étais souvent en train de me mouiller. Et là, c'est vrai qu'il y avait le sac en plus à porter, il y avait l'effort de marcher, il fallait faire attention aux animaux à côté. C'est vrai qu'il y a les muscles des jambes, ça a été très difficile à gérer le soir et la nuit, j'ai eu beaucoup de crampes. Moi, j'ai un problème de sang, donc j'ai commencé aussi à psychoter sur le fait d'avoir un problème de sang en pleine émission. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer.
Et qu'est-ce qu'il en a pensé, son copain Jérémy Frérot, vous savez, des Frérots de la Vega,
ah oui,
en apprenant qu'elle avait dû manger une carcasse d'antilope volée à un fauve qui était coincé dans un arbre, et puis elle a été sujette au vomissement, à des tas de trucs.
Il a été très content, je pense qu'il avait peur pour moi aussi que je parte là-bas. L'éloignement, on est habitué, mais pour moi, ça a été vraiment aussi, pas une révélation, mais j'ai vraiment aimé d'être loin de tout, loin du téléphone. Même si c'était loin des proches, c'était vraiment dans la nature à 100% et il n'y avait pas une onde négative. Donc c'est vrai que j'angoissais de retrouver la civilisation, de reprendre le téléphone, de me dire les problèmes vont recommencer. Et c'est vrai que mon compagnon était fier de moi et de voir que je pouvais faire autre chose que nager. Le fait d'avoir mal, c'était vraiment pour la bonne cause. Et si je pouvais revivre cette émission, je le referais.
Conclusion, oui. Quand on marine 18 heures par jour dans le chlore, ça vous forge un mental. C'est un excellent état sauvage.
Qu'est-ce que vous relevez dans ce que vient de nous dire Laure Manaudou, Jean-Christophe Ruffin ?
Que l'aventure aujourd'hui, pour nous, il faut aller la chercher. Alors qu'à certaines époques, je pense aux personnages dont j'ai parlé, ils n'avaient pas besoin d'autant de... Enfin, c'était pas si compliqué, parce qu'eux, ils ont fait le tour du monde dans des bateaux qui allaient à 10 à l'heure, en mangeant de la nourriture avariée, en buvant de l'eau saumâtre, etc. C'est curieux, aujourd'hui, l'aventure, c'est devenu rare. Mais pendant des siècles, c'était notre vie, quoi. Voilà. Mais heureusement qu'il y a des gens qui perpétuent encore ces épreuves.
Isabelle ?
Alors, vous, qui avez été diplomate, n'oubliez pas aussi sur la 3, un spectaculaire document sur Valéry Giscard d'Estaing. Il est interviewé par Patrice Duhamel. Et franchement, c'est passionnant de bout en bout.
Ah ben, je sais ce que je vais regarder ce soir.
Valéry Giscard d'Estaing ?
Oui, je suis
pas.
C'est de ma génération. Non, c'est de ma génération.
Vous côtoyez. Que je côtoie à l'Académie.
À l'Académie française, oui.
Qui participe d'ailleurs très activement à nos travaux et toujours avec des remarques très, très fines et très drôles.
On va marquer une nouvelle pause, Jean-Christophe Ruffin, et on se retrouve dans quelques instants pour donner la réponse à notre jeu. Je vous rappelle ce qu'on vous a demandé au 32-10. Où Auguste Beniowski a-t-il été déporté ? Et ainsi, vous gagnerez le livre de Jean-Christophe Ruffin, dédicacé par l'auteur. A tout de suite. J'aimerais tellement être une petite souris et assister aux réunions de l'Académie sur le dictionnaire. Ça doit être quelque chose de formidable. Enfin, alors, la question qui était posée à nos auditeurs était la suivante. Où Auguste Beniowski...
Le roi Zibeline.
A-t-il été déporté ? Réponse, Jean-Christophe Ruffin.
Eh bien, en Sibérie.
Voilà, vous avez donc gagné Le tour du monde du roi Zibeline, le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin, qui paraît jeudi, nous vous le rappelons, chez Gallimard, dans la collection NRF. Si vous nous avez appelé au 3210, merci beaucoup d'être venu nous voir, Jean-Christophe Ruffin.
Merci à vous.
Merci Bernard, Isabelle.
Merci.